Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, des morts par centaines, des secours qui n'arrivent plus à suivre et l'ombre des armes chimiques. En Syrie, Bachar el-Assad semble prêt à tout pour faire tomber les dernières poches rebelles. Le sang des civils pour finir la guerre au plus vite. Analyse de Luc Lemonnier dans un instant. Et dans 20 minutes, question sur la France. Quelle voix peut-elle encore porter dans ce conflit? La ministre des Armées est votre invitée, Nicolas.
Oui, on lui posera cette question. Florence Parly, dans quelques instants, vous pourrez dialoguer avec elle. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal également, la justice qui confirme qu'une plainte pour viol a bien été déposée puis classée sans suite contre Nicolas Hulot il y a 10 ans. La classe politique fait bloc derrière lui. Une histoire ahurissante d'un propriétaire chassé de chez lui par des squatteurs. La neige qui revient ce matin encore sur une trentaine de départements. Et puis c'est parti pour 17 jours de glisse, mais à l'autre bout du monde. Coup d'envoi des JO d'hiver ce midi en Corée du Sud. Il n'y aura pas de trêve olympique en Syrie, c'est même un déluge de feu qui s'abat ces derniers jours sur l'une des dernières poches tenues par les rebelles, celle de la Ghouta. Mosquées, écoles, marchés, on ne compte plus les raids de l'aviation du régime sur des cibles civiles. 230 morts depuis lundi, 230 morts dont une cinquantaine d'enfants. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Le régime de Bachar el-Assad a décidé de porter le coup de grâce aux rebelles et il est prêt à tout.
Ah oui, y compris en larguant des barils de chlore sur sa population civile et en franchissant une fois encore cette ligne rouge qui n'en est plus une. La situation dans la Ghouta où sont assiégées 400 000 personnes est une situation de fin de partie. Bachar el-Assad a quasiment gagné, il compte sécuriser la capitale et la Syrie utile. Il y est presque et ce ne sont pas les quelques tirs d'obus de riposte cette nuit sur le quartier de Baptouma qui vont changer grand-chose. Les rebelles syriens, les opposants qui résistent dans la Ghouta depuis le 15 mars 2011 auront en réalité fait les frais du conflit qui s'est ouvert du côté d'Afrine dans le nord, en bordure de Turquie, un conflit turco-kurde qui mobilise toutes les attentions et donc a laissé le champ libre à Bachar el-Assad pour achever sa remontada.
Pendant que les civils se font massacrer, c'est une autre opération qui a été menée hier, cette fois par la coalition internationale menée par les Américains. Elle a tué une centaine de combattants alliés au régime des pro-Bachar el-Assad. Donc, Luc, là aussi, c'est une escalade très inquiétante.
Ah oui, parce qu'à l'origine, la coalition internationale pilotée par les Américains avait pour mission principale de s'en prendre aux djihadistes de Daesh. Nous ne sommes pas là à déraisonner dans ce cas de figure. Les États-Unis sont venus au secours des forces démocratiques syriennes, les alliés arabo-kurdes, dont le QG était attaqué par les soldats fidèles au régime. Opération de riposte de très grande envergure, une centaine de morts, des blindés et nombreuses pièces d'artillerie détruites. Opération militaire offensive pour empêcher les 500 soldats des forces pro-Assad de reprendre le contrôle des gisements de pétrole de Kouchham que les FDS avaient arraché de haute lutte à Daesh l'an dernier.
Merci Luc Lemonnier. Cette nuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est quitté sur un nouvel échec. Les ONG réclamaient une trêve humanitaire d'urgence, mais les 15 participants n'ont pas réussi à s'entendre encore une fois.
Et pour les espoirs de paix ce matin, c'est du côté, Marc, de la Corée qu'il faut regarder.
Oui, pour ce qui sera sans doute l'image de cette première journée des Jeux d'hiver, le défilé commun des deux Corées dans le stade olympique lors de la cérémonie d'ouverture. On en parlait hier, 3000 athlètes venus de 92 pays ont fait le déplacement à Pyeongchang. Parmi eux, une Française qui n'a pas l'intention d'en rater une miette. Elle s'appelle Julia Pereira de Souza. Du haut de ses 16 ans, elle concourt en snowboard cross où elle espère bien décrocher une médaille. Mais pour l'instant, elle a surtout du mal à atterrir.
Bah c'est spécial quoi, il y a du monde partout, c'est une expérience de ouf. D'être ici, c'est vrai que je regarde tout, je suis là, je profite à fond, surtout parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets quoi. Donc je prends tout, je visite tout, je regarde tout, puis les mêmes de voir les gens, des grands champions que je vois sur Instagram ou quoi, de les voir manger à côté de moi, ça me fait trop bizarre. Voilà, de croiser Chloé Kim, de croiser Lynn Seven, enfin voilà, c'est des athlètes que je suis sur Instagram, que j'adore trop les regarder ce qu'ils font, comment ils se préparent et tout, et de là de les voir à côté de moi, bah salut.
Demandez pas des autographes.
Non, quand même, pas des autographes, mais après une photo, je pense que je peux la demander, je m'en fiche, ça par contre c'est pas grave.
Voilà, le sourire de l'une des 107 membres de la délégation tricolore au micro de Vanessa Marguet. Alors soyons chauvins jusqu'au bout et avec vous Fabrice Rigobert, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Pyeongchang où l'équipe de France espère faire mieux qu'il y a 4 ans. Elle avait décroché 15 médailles. Alors sur qui faut-il compter cette fois pour faire résonner la Marseillaise?
Le porte-drapeau de l'équipe de France, Marc, Martin Fourcade, qui s'avancera en tête de la délégation tricolore tout à l'heure dans le stade olympique. Martin Fourcade sera la star de cette équipe de France. À 29 ans, le double champion olympique peut espérer glaner en biathlon plusieurs médailles d'or pour devenir peut-être l'athlète tricolore le plus médaillé de l'histoire des Jeux. Un chef de file comme un guide attendu par Tessa Worley, Alexis Pinturon en alpin, par les danseurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, prêts à offrir à la France sa première médaille d'or depuis Salt Lake City 2002 en patinage artistique. On peut aussi citer Marc le ski cross avec Jean-Frédéric Chapuis qui va défendre son titre, tout comme Pierre Voltier en snowboard cross. Et puis Perrine Laffont qui a dominé ce matin les qualifications de l'épreuve de bosse féminine. Une équipe de France qui aimerait ramener une vingtaine de médailles au total.
La cérémonie d'ouverture c'est à midi dans la foulée. Les premières épreuves officielles, quels sont les premiers rendez-vous à ne pas rater Fabrice ?
Rendez-vous, Marc, demain midi, heure de Paris, pour le patinage de vitesse sur piste courte, très populaire en Corée du Sud et spectaculaire aussi. Il y aura à la même heure le premier match de l'équipe unifiée des deux Corées contre la Suisse pour l'histoire. Et puis à 12h15, le coup d'envoi des épreuves de biathlon chez les dames. Les fans de ski alpin vont devoir veiller ou se lever très tôt, c'est selon, pour la descente. 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, l'italien Innerhofer a dominé la deuxième descente d'entraînement aujourd'hui. Et puis après-demain dimanche, rendez-vous 12h15 pour la première course de Martin Fourcade avec le sprint et vers 13h peut-être pour le sacre de Perrine Laffont, l'ariégeoise, qui sera en finale de l'épreuve de bosse.
Merci Fabrice Rigobert en direct de Pyeongchang où il est donc 4h de l'après-midi, à 8h de plus qu'en France. Quant aux 35 000 spectateurs attendus aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture, ils auront le droit à des températures glaciales autour de moins 10 degrés, mais aussi à des kits anti-froid avec même des petits coussins chauffants. On a pensé à tout pour leur confort.
France Inter, 8h07, une femme qui accuse, un ministre qui dément et la justice qui met les choses au point.
Voilà où nous en sommes ce matin dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire Hulot. Le ministre a pris les devants hier, rejetant en bloc les accusations portées par une femme dans le journal Hebdo qui paraît aujourd'hui. Elle affirme avoir été violée en 1997 alors qu'elle avait 20 ans. Pas de témoin, pas non plus de plainte à l'époque. Ce n'est 11 ans plus tard, en 2008, qu'elle a poussé la porte d'un commissariat pour porter plainte. Le parquet de Saint-Malo l'a confirmé hier soir, affirmant que la plainte avait été classée sans suite, les faits étant prescrits. Depuis hier, le gouvernement, Matignon, l'Élysée ont apporté leur soutien au ministre avec un mot d'ordre, Karine Bécart, pas de démission s'il n'y a pas de mise en examen.
Le président de la République, comme le Premier ministre, ont apporté tout de suite tout leur soutien au ministre de la Transition écologique. Pour Édouard Philippe, une seule question se pose. Est-il toujours en capacité de gérer ces dossiers ? Ce qui ne fait pour lui aucun doute puisqu'il n'y a pas d'enquête ouverte et encore moins de mise en examen. Même tonalité du côté d'Emmanuel Macron, mais précisons qu'il a été averti immédiatement des rumeurs par Nicolas Hulot lui-même. Ce qui a fait dire au chef de l'État, en coulisses, dans l'avion qui l'emmenait mardi en Corse, que jamais il ne se séparait du numéro 3 de son gouvernement. Autrement dit, l'exécutif fait bloc et parmi les opposants maintenant, à droite comme à gauche, personne n'a sonné la charge. Au contraire, le président du groupe des députés LR, Christian Jacob, a regretté cette rumeur permanente dans le monde politique. Quant aux insoumis, ils ont estimé que, sans fait tangible, ils se refusaient à faire le moindre commentaire.
Karine Bécart, encore une couche de blanc ce matin sur une partie du pays, jusqu'à 10 cm de neige attendue sur une bande allant des Hauts-de-France au Limousin, en passant par le centre, l'Île-de-France et la Normandie. 27 départements sont en alerte. Nouveau coup dur pour les transporteurs, les camions n'ont pas le droit de prendre la route aujourd'hui encore en Île-de-France. Difficulté aussi pour les éleveurs qui doivent faire avec la neige et le froid ces derniers jours pour nourrir leurs bêtes. Reportage dans l'Orne, signé Nolwenn Lejeune.
Chez Michel Manoury, éleveur bovin à Sémalé, près d'Alençon, même s'ils sont dehors, ce ne sont finalement pas les animaux qui sont les plus à plaindre.
Ce qui comble le froid pour les bêtes, c'est la nourriture. Si elles sont bien alimentées, elles n'ont pas froid.
Et pour l'instant, de la nourriture, il y en a.
Ça va peut-être finir par manquer si on a, admettons, on a une période pluvieuse au printemps.
Mais il ne suffit pas que les vaches mangent, il faut aussi qu'elles boivent. Et là, c'est l'éleveur qui trinque.
Tous les réseaux sont enterrés, si vous voulez. Donc ce qui gèle, c'est, vous voyez là-bas, c'est les abreuvoirs. Il faut dégeler le matin, on perd un peu de temps, ça.
En gros, il estime que ça lui donne un tiers de travail en plus en ce moment. Ce qui tombe bien, c'est que l'activité au champ est en sommeil, mais pas les naissances.
On va avoir des vélages dans la journée. Là, il y a au moins 2-3 veaux qui vont naître, je pense, dans la journée.
La vie continue.
Oui, il ne faut pas s'arrêter. Le monde agricole, vous savez, c'est jamais arrêté avec le moindre souci. Hein. C'est des gens qui sont un petit peu obstinés. Un peu fataliste et obstiné. Donc non, on se laisse pas faire.
À
Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et avec ce froid, la bonne nouvelle, c'est le ménage dans la cour de la ferme. Les tas de fumier sont gelés, donc beaucoup plus facile à déplacer. Nolwenn Lejeune, France Bleu Normandie pour France Inter.
À la SNCF, encore des retards à prévoir aujourd'hui. À la RATP, la situation revient doucement à la normale, enfin toujours en Ile-de-France. La N118 reste fermée, tout comme la Nationale 1 dans le Val d'Oise. En Alsace, ce n'est pas la neige qui force les automobilistes à ralentir vitesse réduite en raison d'un pic de pollution aux particules fines. Les vitesses maximales sont abaissées de 20 km/h. Enfin, toujours au rayon environnement, l'année 2017 aura été celle du recul en France pour les énergies vertes. Les énergies renouvelables ont représenté un peu plus de 18% de notre consommation. C'est un point de perdu en un an. L'éolien se porte bien, mais les barrages n'ont pas fait le plein. La production hydroélectrique a chuté à cause du manque de pluie l'année dernière. A priori, ça devrait aller un petit peu mieux cette année.
8h11, c'est l'un des maillons faibles de notre économie. Comment relancer enfin l'apprentissage?
Le gouvernement annonce ce matin les grandes lignes de sa réforme. Plus de pouvoir donné aux entreprises, un peu moins aux régions. Et une nouveauté, les centres de formation des apprentis devront jouer la transparence sur leurs résultats. Laurent Kramer.
Première révolution, la publication des taux d'insertion professionnelle des 965 CFA du territoire pour permettre aux familles et aux élèves de choisir leur formation en toute connaissance de cause. Le gouvernement souhaite que les CFA les plus demandés et aux meilleurs débouchés puissent se développer sans limite. La réforme fait donc sauter tous les verrous administratifs à la main des régions qui décident jusqu'à aujourd'hui des ouvertures, du financement ou du nombre de places en centre d'apprentissage. Le secteur est libéralisé, dénonce la CGT, seul syndicat à contester la réforme. Deuxième révolution, permettre aux grandes entreprises d'intervenir davantage dans les programmes ou d'ouvrir leur propre centre d'apprentissage. La fin des autorisations administratives devrait déboucher sur la création d'une quinzaine de CFA du CAC 40, estime une source proche du dossier.
Et maintenant, une histoire de coucou. Vous savez, cet animal qui vient squatter le nid de ses congénères. Ça se passe à Neuilly, en région parisienne, où un habitant d'une cinquantaine d'années a eu la surprise de découvrir chez lui, à son retour d'un déplacement de plusieurs semaines, une famille entière installée dans son appartement, un couple, les deux enfants qui se sont infiltrés chez lui et dans sa ville. L'histoire, c'est Philippe Randet qui nous la raconte.
Serge est à Nice depuis 3 semaines. Lorsqu'il reçoit un coup de téléphone, son syndic l'appelle pour le prévenir qu'un homme a essayé de se faire passer pour lui pour obtenir un nouveau badge d'accès au parking de son immeuble à Neuilly. Serge comprend alors qu'un couple avec deux enfants s'est installé chez lui pendant son absence.
Ils sont entrés par effraction, c'est en changeant ma serrure. Ils ont viré mes affaires. Comme ça lui plaisait pas, ma télé, il l'a mis ailleurs. Il en a mis une autre. Il a mis un frigo américain à deux portes. Alors mes effets personnels, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont changé mon contrat EDF, c'est ma résidence principale, faut pas l'oublier. Je l'ai mauvaise, si vous voulez, parce que bon, je dors pas, je suis fatigué, j'en ai marre. Après, il y aura les vacances d'été, il y aura quoi aussi, la trêve hivernale, puis on va se retrouver en 2019.
La loi est claire, au-delà de 48 heures d'occupation, les squatteurs peuvent invoquer leur droit au logement. Du coup, Serge a engagé une procédure d'expulsion, Nejma Labidi est son avocate.
Il faut le temps d'obtenir une décision d'expulsion, et puis ensuite le temps de la faire exécuter par les huissiers de justice, hors trêve hivernale, et il faut que la préfecture prête le concours de la force public pour le faire. Et si vous décidez de déloger vous-même des personnes, c'est 3 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc là, c'est la triple peine pour le propriétaire qui serait tenté de se faire justice à lui-même.
Une audience se tiendra au tribunal d'instance de Courbevoie le 12 mars prochain.
Aux États-Unis, Marc, ça deviendrait presque une habitude.
Pour la deuxième fois en 3 semaines, le pays est en cessation de paiement. Le Congrès américain avait jusqu'à 6 heures, heure de Paris, pour voter une loi permettant d'éviter un nouveau shutdown qui met des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique. Ce qu'il n'a pas fait, les débats ont été suspendus, mais le Sénat est désormais à la recherche d'un nouveau compromis. Et pourquoi pas nous? En Allemagne, la victoire des métallos aiguise les appétits alors que les 4 millions d'ouvriers de la métallurgie viennent d'obtenir une hausse de 4,5% de leur salaire. Les fonctionnaires menacent aussi de faire grève dans la foulée. Leur syndicat réclame 200 euros d'augmentation chaque mois pour les 2 millions d'agents publics. Enfin, 6 millions de fêtards dans les rues de Rio. C'est le carnaval
beaucoup.
De... Oui, c'est beaucoup, hein, les 200 euros. Et les 6 millions de fêtards, le carnaval de tous les superlatifs qui débute aujourd'hui, marqué par le défilé des chars et des danseurs de samba, bien sûr, marqué aussi par l'austérité cette année, la ville de Rio ayant divisé par 2 ses subventions accordées aux participants.
Et on termine, Marc, avec de vieilles cylindrées.
C'est le salon Rétromobile qui se tient en ce moment à Paris. 500 voitures de légende, de la Ferrari 250 GT à la Citroën SM de Georges Pompidou. Ils seront plus de 120 000 à venir les admirer. Parmi eux, ce passionné, lui-même collectionneur, Guillaume Dreschler, a poussé les portes de son garage.
La voiture de Julien se devine au milieu des actuelles Clio 208. C'est une Chevrolet Caprice de 1979.
C'est la conséquence du soft power américain. Je suis tombé fan de ces grosses péniches américaines que l'on voyait dans les séries comme Starsky et Hutch ou Sheriff et moi peur, des choses comme ça.
Et à 35 ans, ce Parisien en est déjà à sa quatrième voiture de collection.
Je suis un très grand fan des berlines 4 portes avec un coffre, vraiment la voiture traditionnelle, celle qu'on dessine tous quand on est gamin. Il y a ensuite les sensations de conduite, le bruit, les odeurs. Et accessoirement, c'est une voiture qui rend cool.
Problème, la semaine dans Paris, de 8h à 20h, tous les véhicules antérieurs à 1997 sont interdits, sauf ceux déclarés de collection. Julien, lui, ne veut pas se plier à la règle.
Je vais continuer à rouler, hein. Au départ, c'était vraiment le sentiment du propriétaire qui est énervé parce qu'on l'interdit de circuler. Mais maintenant, c'est plus un côté militant.
Tout ce qu'il veut, c'est continuer à rêver.
Très tôt le matin, le fait d'être sur une autoroute vide, de rouler à 100, 110, tranquillement, avec par exemple du Frank Sinatra dans l'autoradio, avec le soleil qui se lève, c'est quand même un plaisir.
Fly me to the moon, let me play.
On ouvre les fenêtres, on respire en grand. Et puis sachez qu'en marge de ce salon, une vente aux enchères vient de faire un bid complet. Il s'agissait d'un bolide italien qui avait appartenu à Johnny Hallyday, s'il vous plaît, estimé à 2,5 millions d'euros. Il n'y a pas eu un seul preneur, Nicolas. Si ça vous tente, Rétromobile, c'est jusqu'à dimanche à Paris. 2,5 millions, vous avez ça, vous, non?
Non, absolument non, pas, bon, non. Ni l'envie, d'ailleurs. Marc Fauvel, merci pour ce journal. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Sur regionjob.com.
Marie-Pierre Planchon, alors dites-nous, parlez-nous de cette nouvelle dégradation neigeuse, pardon.
Eh bien écoutez, donc cette perturbation qui est venue des îles Britanniques a abordé le nord-ouest de la France et au contact de l'air froid, la perturbation donne un nouvel épisode neigeux du nord jusqu'au centre et au Limousin. On a toujours ces 27 départements vigilance neige-verglas, des Hauts-de-France à la Corrèze, et il neige d'ailleurs actuellement sur Laval et Alençon. Les brouillards sont également givrants, attention, hein, sur la façade est des Ardennes à l'Auvergne, prudent. Sur la façade atlantique, eh bien, votre matinée se passera sous les nuages et de la pluie, voire quelques flocons, car les températures sont toujours glaciales. Il fait moins 9 en Eure-et-Loire, à Châteaudun, moins 4 à Paris. Dans le sud également, il gèle, car le ciel est dégagé. Vous avez moins 3 à Perpignan et à Marseille.
Et cet après-midi, il va neiger plus à l'est.
Oui, la perturbation va se dégager progressivement vers l'est. On attend également 3 à 6 cm sur ces régions. À l'ouest, un léger redout se fait sentir sur l'Atlantique avec le retour de quelques éclaircies. En revanche, sur les côtes, vous avez du vent soufflant à 70 km/h. Également sur les côtes de la Manche, où l'après-midi, les éclaircies seront ponctuées de quelques averses de grésil. Le temps se dégrade sur le golfe du Lion après une belle matinée ensoleillée et le soleil va briller jusqu'aux Alpes à la Côte d'Azur. On aura un petit peu les mêmes températures qu'hier, 3 dans la capitale, 7 à Bordeaux et Nantes. Il fera 2 à Aurillac, comptez 3 à Paris comme à Lille et 4 à Nancy, 5 à Toulouse, 7 à Lyon, 9 à Marseille. Et le maximum, ce sera pour la Corse avec 13 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre.